États, en compagnie de Kevin Parent, Pierre Lapointe, René Martel, Les Sœurs Boulay, Marie-Pierre Arthur, Galaxy, Daniel Boucher et plusieurs autres. Pour information, visitez le www.festivalenchanson.com ou composez le 88-393-2222. Le Festival en chanson de Petite-Vallée, une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Desjardins.
Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
Avenue Christophe Colomb. Bonsoir et bienvenue à vous tous et à vous toutes à cette édition de Une fois c'est une rue, une fois c'est une avenue. Ce soir, l'avenue Christophe Colomb, sera-t-il question d'exploration ou d'explorateur? J'ai comme une intuition que oui. Ne me laissez pas répondre à cette question. On va demander aux collaborateurs qui sont tous autour de la table ce soir et on va les interpeller dans leur ordre d'apparition dans cette émission. Donc, dans quoi? 3-4 minutes, on va retrouver Alexis Gacon. Salut, Alexis.
Salut, Alexandre.
Et tu seras justement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut dire que tu as concocté un genre de guerre des explorateurs?
C'est la guerre et ce sera entre donc Christophe Colomb qui va attirer toute notre attention aujourd'hui et Fernand de Magellan qui est son rival direct d'origine portugaise.
C'est comme un duel.
C'est le clash.
Voilà le clash. Donc dans 5 minutes, je le disais, on va se pencher là-dessus. Sinon, Anne-Sophie Carpentier est là. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandre.
Et toi aussi, on est dans le thème de l'exploration, mais plus près de nous, dans le temps et dans le lieu aussi.
Exactement. Alors moi, j'ai parlé avec un explorateur urbain, quelqu'un qui va dans
Arrête
des...
Donc.
Ben oui, je te dis. Un vrai de vrai explorateur, vrai? Oui. Vivant, hein?
Il n'est pas venu en bateau. Non, c'est ça.
Alors, il explore des lieux abandonnés, des lieux industriels, des lieux difficiles d'accès et il documente tout ça en prenant des photos et les partage sur Internet.
Ben,
Je raconte tout ça tantôt. Oui, un vrai explorateur. J'ai parlé avec quelqu'un comme ça.
Wow!
Oui!
dans une quinzaine, à peu près. Oui. Là, l'auditoire est attisé.
Je pense que oui.
On l'entend. Je l'entends être fébrile. Ça fait un son. La fébrilité, ça fait un son très, très particulier. Olivier Pellerin, interromps-moi.
Bonjour Alexandre.
bien joué. Dans une trentaine, donc, la deuxième partie de l'émission, on va être un peu plus terre à terre, je dirais. Tu nous amènes au Patrouille Prévost qui, tenez-vous bien, est situé sur la rue Christophe Colomb.
Exactement, au coin de la rue Everett.
Oui.
Et en fait, on va parler des patrouilles au Québec parce que ça a eu une importance capitale chez les jeunes. Les jeunes ont bougé au Québec longtemps grâce aux patrouilles.
C'est un drôle de nom. C'est Patrouille Le Prévost. Ouais. C'est qui ce monde-là?
Je vous dirai d'où vient le mot patrouille et d'où vient Le Prévost. Okay.
Es-tu patro? Parce que c'est leur question, c'est leur slogan. Êtes-vous patro?
Je suis un peu patro.
Ouais, moi je.
Grâce au badminton.
D'accord. Voilà. D'accord. Et on est terre à terre, on est sur la rue vraiment dans la deuxième portion de l'émission. Ce sera le cas avec Alexandre Gascon. Salut.
Oui, terre à terre ne veut pas dire plate, là, hein? Vraiment. C'est à l'opposé.
Bon, ça commence. Il est prime.
Ah,
il
est prime. Alexis Gacon, toujours original.
C'est lui qui avait.
Évidemment.
Il a du talent. Ah,
je sais.
C'est un créatif.
C'est épouvantable.
Oui.
Ça se voit dans sa coupe de cheveux.
Épouvantable, c'est un créatif. Épouvantable, on espère que ce ne sera pas le cas quand tu vas nous parler.
Pour ça, il faut rester encore à l'écoute pendant 45 minutes. Et
on n'entend plus la fébrilité. Là. Le son a disparu. Non, on rigole, mais on va monter un peu plus haut sur Christophe Colomb.
Oui, dans le nord, dans Annecy, quartier-ville, pour être précis, où on va explorer les couloirs poussiéreux du complexe sportif Claude Robillard.
Et pour y avoir mis le pied à quelques occasions,
c'est un
brin poussiéreux.
Ça fait penser à ceux d'une polyvalente de
Blainville, effectivement. Ouais. Mais ça a été le berceau, le théâtre aussi de grands moments d'histoire du sport au Québec.
Tout à fait.
Tu vas nous en faire la démonstration.
Voilà.
Hein, ça?
Je vais essayer.
Le bruit de fébrilité est revenu.
Tranquillement.
Revenu.
Timide.
Mais d'abord, un tout petit peu de toponymie, parce que c'est vraiment pas compliqué, celle-là. Je veux pas faire peur à personne, mais l'avenue Christophe Colomb a été baptisée Christophe Colomb en l'honneur de l'explorateur Christophe Colomb. Ish. Le 20 décembre 1897, pour être plus précis. Avant, l'artère était connue sous le nom Boulevard des Ormes, entre autres, notamment. Et sinon, c'est un axe nord-sud de l'avenue Christophe-Colomb qui débute au sud à la rue Rachel, qui se termine au nord avec l'intersection au boulevard Gouin. Et on parle de 8,5 beaux kilomètres d'asphalte.
Été 1492. Trois vaisseaux espagnols sillonnent les mers à la recherche de la route des Indes par l'ouest. Mais lorsque, trois mois plus tard, ils jettent enfin l'ancre, ils sont dans les Caraïbes. L'Europe vient de découvrir un nouveau monde. Nous croyons connaître la suite.
Et là-dessus, ça donne le ton. Encore une fois, c'est Mathieu Damour à la production qui s'est surpassé. On a de belles visites en studio.
Bonjour!
René Potier qui passait dans le coin.
Attendez, je vais m'approcher du Québec.
Allô, René, comment tu vas?
Extraordinaire.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Il y a longtemps, en effet.
Bon, tu m'as l'air en grande forme.
Mais quel joyeux groupe.
Hein. Mais t'as rien vu encore.
Ah, mais j'ai tout entendu.
ça commence à peine. J'ai bien essayé, en tant qu'animateur boiteux, d'ignorer ta présence, mais j'ai manqué.
Ah, je suis Denis Tenuant.
J'ai manqué mon coup.
Comme on me disait à l'époque, continuez votre bon travail.
Oui, merci.
Au revoir. Pardon.
Alors, merci. Alexis, ça, c'est le métier qui rentre, mon vieux. Il faut que tu embrayes.
Non, mais c'est toujours agréable, un peu d'imprévu. Monsieur Potier.
René Potier, c'est une légende de la radio.
Eh bien, enchanté.
Descripteur des matchs du Canadien, de la télévision.
Notamment.
Visage important de Radio-Canada.
Bon. Et biographe, Olivier Pellerin, biographe.
C'est clair.
Biographe en résidence. Donc, ce thème savamment bricolé par Mathieu Damour qu'on vient d'entendre, mettait le ton à ce clash, comme tu l'as baptisé, des explorateurs.
Ce clash des titans, oui, c'est Christophe Colomb contre Fernand de Magellan. Alors, Christophe Colomb, il est souvent dépeint comme le plus grand des explorateurs. Pourtant, son fait d'armes le plus célèbre, c'est quand même de s'être planté, parce qu'il n'était pas censé, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, découvrir l'Amérique.
Hein.
C'était les Indes orientales qu'il visait, mais bon, il s'est trompé. Et Fernand de Magellan, de son côté, lui, il cherchait la route des épices, il cherchait un trou, en fait, dans l'Amérique du Sud pour aller directement dans ce qu'on appelait à l'époque la Grande Mer du Sud, le Pacifique. Alors donc, à ma gauche, Christophe Colomb, à ma droite, Fernand de Magellan. On va essayer, comme tout bon historien, avec des critères, eh bien, un petit peu remplis de mauvaise foi, de définir qui a gagné la bataille des explorateurs, Alexandre.
Ça sent la démarche scientifique.
Oh oui. Alors... Oh, tu as le nez fin, mon
oui.
cher.
Alors, premier critère.
Premier critère. Eh bien, on va commencer par un critère objectif. Hein, après, vous allez voir, ça va se détériorer, mais objectif, la vitesse de ces deux-là. Alors, pour le premier voyage de Christophe Colomb, qu'on estimait au départ à 750 lieues, soit environ 3000 kilomètres. En fait, il en a fait 3600, il s'était planté. Il a fait 3600 kilomètres en 35 jours, ce qui équivaut à une moyenne de 103 kilomètres par jour, et donc une vitesse, pour les matheux, de 4,3 kilomètres à l'heure. Bon, un homme qui marche à pied à une vitesse somme toute, mais pas mal finalement, pas mal quand même.
Okay.
Quant à Magellan, il nous a fait du 78 000 km en 1500 jours. Le calcul est simple, donc V égale D sur T, vitesse égale distance sur temps. Fernand a souffert de vents contraires et la moyenne passe à 2,16 km/h. Donc un petit peu triste pour lui.
Mais oui, plus de deux fois plus rapide, Christophe.
Donc sa réputation de plus grand navigateur de tous les temps au niveau vitesse est confirmée.
Alors 1-0 pour Christophe Colomb.
1-0 pour Christophe. On continue. Deuxième critère, le taux d'erreur. Donc l'erreur de Colomb est bien connue. Comme on a dit, il visait les Indes, il s'est planté, il a découvert l'Amérique. Une belle découverte finalement, puisqu'elle mena à la création du Big Mac. Alors il cherchait une nouvelle voie, mais surtout il évitait aussi, il était un peu poltron, il évitait le brigandage, hein, parce que sur la route la plus connue des Indes, c'était très peuplé par les pirates. Donc lui, il voulait éviter ça également. De son côté, Magellan, lui aussi, il s'est trompé, même si c'est moins connu, tout simplement parce qu'il ne connaissait pas les travaux d'Hermès Ératosthène sur la circonférence du globe. Ah. Donc, il pensait que c'était beaucoup plus petit que prévu. Et cette erreur va quasiment lui coûter la vie, Alexandre, puisque pour lui, bon, le Pacifique n'était qu'une vaste, flaque. Et il avait prévu des vivres, mais pas assez. Résultat, il est à la limite de, d'être en situation de famine. Voilà. Mais quand même, l'erreur est un peu moins grosse que Christophe. Donc, on va dire que c'est un partout.
Un point pour Fernand là-dessus. C'est l'égalité. Troisième critère maintenant. La capacité.
La cloche se réveille.
Le gars en régie avec sa cloche, là. Il me taponne un peu. Troisième critère, la capacité de survie en milieu hostile et la gestion de l'équipage.
La gestion de l'équipage.
C'est sérieux, ça, là.
Alors, ça, c'est deux approches pédagogiques. Fernand et son équipage, comme je te le dis, donc, avaient sous-évalué la distance, donc la taille du Pacifique. Cependant, avec 9 morts sur 18 à la fin de l'expédition, Magellan est toujours debout. Il a mangé des rats, il a mangé des chats qui étaient dans le bateau, il a mangé de la soupe de copeaux de bois trempée dans de l'eau de mer, c'est véridique, hein. Et il a tenu debout grâce au céleri sauvage qu'il arrivait à attraper quand il était proche d'une côte ou sur une île. C'est vrai, il a tenu grâce au céleri. Donc, pour l'inventivité, pas mal Magellan. Mais au niveau gestion de l'équipage, il avait embarqué avec 5 capitaines avec sa flotte, mais 3 ne peuvent pas l'encadrer. Hein, ils veulent la peau de Magellan pour pouvoir avoir plus de sous, puisqu'il y avait une certaine partie des richesses qui devait revenir à celui qui arrivait sur l'île. Donc il en exécute un qui s'apprêtait à faire une mutinerie. Il en décapite un autre. Il laisse la tête sur le pont du bateau.
Pour faire un exemple.
Voilà, ouais. Pédagogie toujours. Pédagogie de l'exemple, bien appris dans les écoles. Et il tue donc Gaspard de Quesada, Gaspard de fromage en français. Donc pas mal quand même Fernand pour avoir quand même géré son équipe d'une main de maître.
C'est tenir ses troupes
serrées, oui. Quant à Christophe, lui, eh bien, il survit bien en milieu hostile. Il se guide avec les oiseaux. À un moment, il voit les oiseaux partir d'un autre côté. Il dit « Cap vers l'ouest !» Et il a raison, mais c'est comme ça qu'il va découvrir l'Amérique. D'autre part, il gère l'équipage d'une main de maître car il n'hésite pas à leur mentir puisque la distance est également plus longue aussi que prévu. Donc, il leur dit, par exemple, il ment dans son journal intime, son journal de bord, au cas où ce journal de bord se fasse lire. Okay. Il dit les hommes n'en peuvent plus et se plaignent de la longueur du voyage, alors je vais insister sur l'or qu'ils vont pouvoir recevoir. Donc voilà, il ment et finalement ça marche. La seule erreur vraiment notable qu'il fait, c'est qu'il va se coucher un soir en laissant la barre au jeune Mousse, alors que ça devait être un des marins les plus expérimentés qui devait tenir la barre. Christophe Colomb fait un petit somme, il se réveille, le navire s'est échoué puisque le jeune Mousse n'était pas encore au point, question de navigation. Donc, mais quand même, il est débrouillard puisqu'il récupère le bois pour faire un fort, il arrive à remotiver les troupes pour faire un fort sur la côte quand même. Donc là, moi je dirais 2-1 pour Christophe pour l'inventivité.
Qui reprend les devants, donc Christophe Colomb face à Magellan. Quatrième critère, parce que c'est là qu'on est, le comportement avec les habitants des futures colonies. Ah, ça pue un peu.
Ça pue un peu, oui. Donc là, typique. Également deux pédagogies à nouveau. Magellan, alors lui, il est content quand il arrive, quand il découvre l'îlot de Mactan, les Philippines, une partie des Philippines actuelles, puisque il était en manque de vivres. Donc là, il arrive, il a l'impression d'être à Punta Cana, du soleil, des filles, des oiseaux exotiques. Il est super content, mais il arrive un petit peu naïf et un peu trop conquérant. Il trouve les habitants sympathiques, alors il en convertit certains, sûrement juste avec les gestes, parce que j'imagine qu'au niveau de la langue, c'était quand même un peu compliqué. Mais contrairement à certains habitants qui se laissent convertir, le chef Lapu-Lapu ne voit pas la situation de cet œil et il compte bien résister à Fernand de Magellan. Donc 600 indigènes avec des flèches empoisonnées contre 60 marins portugais qui ont beau être peut-être plus expérimentés et un peu plus techniques, eh bien ça ne suffit pas et Fernand de Magellan meurt à cause d'une flèche empoisonnée à cause de Lapu-Lapu, donc qui le tue et il s'étouffe en plus dans une flaque d'eau, donc une fin un petit peu triste. Et il était peut-être un petit peu trop naïf avec les motivations des habitants qu'il retrouvait en face. Christophe Colomb, lui, une autre approche. Sa première rencontre avec les habitants des Bahamas, parce que c'est aux Bahamas qu'il va atterrir en fait à Mary au début, est racontée dans son journal intime ainsi. Ils nous apportèrent des ballots de coton, des javelots et bien d'autres choses qu'ils échangèrent contre des perles de verre et des grelots. Ils échangèrent de bon cœur tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien bâtis, avec des corps harmonieux et des visages gracieux. Ils ne portent pas d'armes et ne les connaissent d'ailleurs pas. car lorsque je leur ai montré une épée, ils la prirent par la lame et se coupèrent avec par ignorance. Et après, la phrase qui résume, avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, Christophe a bien exposé sa pensée là-dessus, synthétique. Ok, il est admiratif quand il débarque, mais quand même, il réfléchit bien très vite à ce qu'il va pouvoir en faire, et il va être assez catastrophique. En fait, il va être horrible, il va être inhumain avec les locaux, les habitants sur place. Il va en faire donc des esclaves pour les femmes, des esclaves sexuels. Il donnait les bébés à manger aux chiens, les esclaves qui ne travaillaient pas assez vite, il leur coupait les mains. Donc au niveau gestion, sur le plan éthique, on préfère largement Magellan, qui était quand même beaucoup plus humain que notre compère Christophe, qui si on réfléchit ne mériterait pas forcément d'avoir une rue nulle part.
C'était pas gentil. Et rapidement, Alexis, le temps nous manque, mais un dernier critère, celui du taux de vérité.
Entre les deux, en fait, c'est deux grands menteurs, parce que Christophe n'aura pas découvert l'Amérique. D'ailleurs, de son vivant, il ne sait même pas ce qu'il aura découvert. On le dira plus tard, donc on ne dira pas qu'il est menteur lui, mais que les autres ont menti, puisque les Vikings avaient déjà découvert l'Amérique avant.
Christophe.
Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, aura découvert l'Amérique avant lui, et d'autres aussi. C'est Amerigo Vespucci qui va lui donner le nom d'Amérique. Et Fernand, de son côté, Magellan n'est pas le... il est le premier à avoir fait le tour du monde, mais ce n'est pas ce qu'il souhaitait. C'est plutôt également le cours de son souhait d'aller chercher les épices qui va l'amener à faire ça. Il ne voulait pas du tout être le premier à faire le tour du monde. Donc, c'est des menteurs, mais Magellan est quand même un petit peu plus léger dans le domaine. Donc, ça fait du 3-2 pour Christophe, ou j'ai mal compté? Non, ça fait 3-2 pour Fernand de Magellan.
Qui l'emporte.
Et on est bien d'accord que Christophe n'aurait pas forcément mérité donc d'avoir toute cette attention.
Absolument. Voilà. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, on fera la rue... comment il s'appelle?
Fernand de Magellan.
Fernand de Magellan. Alexis Gacon, merci beaucoup.
Salut.
Nuno Endo et la pièce Christopher Columbus, en l'honneur du cinéaste, j'imagine. Oui, le gars qui a fait des films dont j'ai aucun titre en tête, d'ailleurs. Mais avec, c'est lui qui a fait Home Alone. Ben là, zéro culture. Mais cet animateur n'a aucune culture. Et là-dessus, Anne-Sophie Carpentier, on est dans le thème de l'exploration. C'est l'avenue Christophe Colomb
ben
ce
oui.
soir, bien sûr. Et là, toi, là, t'as déniché... quelque chose parce que on en parlait avec Alexis, les explorateurs, c'est ça date un peu d'une autre époque, oui. Mais non, pas nécessairement.
Pas nécessairement, non. Parce qu'on peut décider d'explorer aussi maintenant, là, tout de suite. Mm-hmm. Alors moi, j'ai décidé d'explorer les avenues de quelqu'un qui explore la ville. C'est ça, fait que j'ai rencontré Jarold Dumouchel. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment à la recherche de lieux abandonnés, de lieux difficiles d'accès, d'endroits qui ont été quelque chose d'incroyable avant et qui mm-hmm. sont finalement laissé un peu à l'abandon. Alors lui, c'est ça qu'il fait. Pourquoi il fait ça?
Pourquoi il fait ça?
Comment est-ce qu'on devient quelqu'un qui explore des lieux urbains un peu désaffectés avec de la poussière, des trucs rouillés? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est curieux de ça? Lui, il m'a raconté qu'en 2004, il allait chez sa mère avec sa copine. Puis là, sur la route, ils sont tombés sur un vieil hôpital abandonné. Fait qu'ils ont décidé d'arrêter, d'explorer un peu. Puis il n'y avait pas de bottes de caoutchouc, il n'y avait rien
ici,
pour...
Ici, là, c'est à Montréal?
Bien, il non, est très, oui. très mystérieux sur le okay. nom et le lieu des endroits qu'il okay. visite. Okay. Simplement parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de vandales, il ne veut pas nécessairement faire la publicité, il ne veut pas nécessairement entrer en conflit aussi avec les propriétaires de ouais. ces lieux-là. Alors, ils sont très, très, très discrets, okay. les explorateurs urbains, sur la localisation exacte des endroits qu'ils visitent. Mais il leur donne des petits noms comme ça. Alors, il visitait un hôpital ouais. abandonné avec sa copine. Il n'y avait pas de bottes de caoutchouc, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de lampe de poche, mais il y avait sa caméra. Lui, il adore prendre des photos. Alors, il a documenté un peu l'expérience avec le flash de la caméra. Il y avait une lampe de poche. Et puis, lui, il est développeur web dans la vie. Alors, il a décidé de créer un site web pour mettre ses photos. Okay. Puis, suite à ça, il a continué à explorer d'autres sites. Il y a quand même un peu la piqûre de l'explorateur, ouais. Découvreur d'endroits que peu de gens voient encore. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que là, il a créé son site web qui s'appelle Urbex Playground.
Urbex.
Ouais. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, Urbex, non. parce que je connaissais un peu le principe des gens qui visitent des lieux abandonnés et tout, mais c'est vraiment une expression consacrée
ah, oui.
pour exploration urbaine, parce qu'en anglais, c'est Urban Exploration. Ah. Fait que Urbex, ce serait vraiment le petit diminutif, le petit mot
oui.
pour désigner l'activité qui consiste à visiter des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, interdits ou difficiles d'accès, etc., etc. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un hobby très populaire ici, en Amérique du Nord, dans les villes, mais aussi ici en Europe, il y a beaucoup de sites Facebook, mm-hmm. De sites web, beaucoup de gens qui font mais ça.
Quand j'ai entendu parler de qu'il serait question de ça à l'émission, j'ai tout de suite pensé à les explorations des catacombes à Paris,
oui.
entre autres.
Oui, ça c'est de l'urbex aussi. Alors, il y a toutes sortes de gens qui se spécialisent dans toutes sortes de choses. Par exemple, il y a ceux qui adorent explorer les égouts, donc les mm-hmm. réseaux de canalisation des villes, les catacombes, donc les réseaux souterrains, les toits, les gens qui adorent explorer les toits. Dans le cas de Jarold Dumouchel, avec qui j'ai pu parler, lui aime les usines, les hôpitaux, les bâtiments industriels, les écoles, les anciens hôtels aussi, qui ont un passé glorieux mm-hmm. et qui sont maintenant fermés, abandonnés. C'est fascinant. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu sa définition à l'urbex, à lui, hein, parce que chacun a ses règles. Alors on l'écoute.
C'est un hobby un peu underground qui consiste grosso modo à visiter des lieux abandonnés en s'assurant que quand on rentre et quand on sort, qu'aucune trace puisse témoigner de notre passage, si ce n'est que les empreintes qu'on laisse dans la poussière. Fait que le but est un peu de rien voler, de rien toucher, de juste pouvoir témoigner un peu de ce qu'on a pu y voir en prenant des photos.
Alors, ce qu'on a pu comprendre, c'est que, on visite des lieux abandonnés, etc., mais une des règles de l'urbex, c'est de ne pas laisser de traces. Okay. Alors, vraiment, ils ont même une devise, hein, les gens qui pratiquent l'urbex, c'est « Take nothing but photographs, leave nothing but footprints
okay. ».
Alors, vous pouvez prendre des photos, mais vous ne devez rien laisser finalement que des petites empreintes légères ou des traces dans la poussière.
Des petites traces de pas.
Exact.
À peine.
Alors, okay. on est un peu comme un fantôme éthéré qui mm-hmm. visitons des lieux comme ça, abandonnés. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, lui prend des photos. Il y en a d'autres qui vont simplement flâner, filmer. Mais ils vont rarement partager les lieux où ils vont. Ils vont garder ça assez secret pour justement pas avoir de vandales ou de problèmes.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça reste quand même un hobby clandestin, si vous n'avez pas
compris. Tout à fait. Et illégal.
Ben, illégal, tout à fait. Alors,
je l'ai dit. J'ai hésité, mais je l'ai dit. C'est illégal.
C'est ça. Lui, il racontait que, bon, il y a beaucoup de pratiques d'infiltration. Donc, les gens qui se faufilent à l'intérieur de bâtiments comme ça, ni vu ni connu, sans vouloir nécessairement vandaliser. Donc, c'est quand même un hobby assez sain. Mm-hmm. Mais lui, de plus en plus, il va faire des demandes auprès de propriétaires de certains lieux, par exemple des hôtels, j'imagine, ou des lieux qui sont vraiment encore surveillés, gardés, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir aller voir. Alors ça, c'est une pratique qu'il commence à faire là, depuis quelques années, parce que lui fait ça depuis 2004. Ça devient un peu un professionnel, hein, une dizaine d'années déjà.
C'est assez impressionnant et ça doit être assez excitant d'aller dans ces endroits-là. Est-ce qu'il t'a parlé un peu, je ne sais pas, est-ce qu'il a fait justement des parallèles avec les grands explorateurs qu'on évoquait tout à l'heure?
Ben oui, j'essaie de le partir un peu, là, de lui demander un peu s'il se sentait excité, s'il y avait des trails à aller là-bas. Puis il racontait, ben oui, être là où peu de gens vont, où peu de gens iront, c'est très, très excitant. Puis de savoir qu'on n'a pas d'affaires à être là aussi, il y a vraiment un thrill. Mais il dit, c'est comme toute bonne chose, à un moment donné, quand tu te mets à le faire souvent, c'est moins en moins thrillant. Puis maintenant, il s'assure d'être en sécurité, de prendre ses photos et tout. Mais quand même, il m'a dit qu'il se sentait quand même comme un explorateur. On peut l'écouter.
C'est sûr que d'entrer et d'avoir le privilège un peu de visiter des lieux qui sont soit fermés, barricadés ou il n'y a pas eu de vie depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est quand même un privilège qui est quand même très intéressant. Mais j'essaie vraiment d'attaquer un peu mon hobby comme de façon plus professionnelle, de dire, bon, mais je suis en mesure de documenter l'atmosphère qui pouvait y régner. Par exemple, la semaine dernière, j'étais allé dans un hôtel qui a fermé il y a environ 2 ans. Il restait le mobilier au complet. Toute l'activité est encore là, ce qui veut dire j'avais un peu l'impression que d'être le lendemain de la fermeture, ce qui veut dire que quand j'ouvrais des frigos, ben je découvrais de la nourriture séchée. Dans la cave à vin, il y avait des bouteilles encore là qui étaient en train de... Les étiquettes étaient en train de moisir, mais qui étaient toujours là. Oui, effectivement, on se sent un peu explorateur. L'impression de découvrir des trucs qu'on est les premiers à voir, même si du coup, c'est pas vraiment le cas. Les propriétaires, généralement, font le tour de leurs édifices de façon assez régulière, ce qui fait qu'on est loin d'avoir découvert l'Amérique.
Oh, comme...
Christophe Colomb.
Ça s'invente pas.
Ben
parce que c'est la rue dont on parle ce soir.
Exactement, pour parler d'exploration, d'explorateur. J'étais assez contente quand il a dit ça. Je me suis dit que ça te ferait plaisir aussi, Alexandre.
Écoute, ça fait ma semaine.
Ben oui. Alors, on a tous compris donc que c'est un hobby d'exploration, que c'est excitant, qu'il y a un aspect aussi de documentation, hein, documentaire, parce qu'il prend des photographies. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de recherches impliquées là-dedans, parce que sur son site web, lui, il écrit des textes qui accompagnent ses photos, qui rendent compte de l'atmosphère actuelle du lieu, donc abandonné, poussiéreux, dépendamment des endroits qu'il visite. Mais il y a aussi tout un volet un peu historique qui accompagne les photos. Donc, lui, il fait des recherches auprès des propriétaires actuels, dans les archives, sur les sites Internet. Il va essayer de rencontrer des gens aussi qui ont été propriétaires ou qui auraient été propriétaires pour avoir vraiment des histoires personnelles. Alors, lire ces textes-là de Jarol Dumichel sur son site web, c'est intéressant parce que ça donne vraiment une autre perspective sur le lieu, ce qu'il a été, sa magnificence ou pas, ou l'ère industrielle, etc. Alors, moi, je vous propose d'écouter un peu comment il déniche ces lieux-là, puis comment il s'y prend un peu aussi pour faire la recherche. On l'écoute.
Il suffit de se promener le long des voies ferrées, généralement, pour trouver des bâtiments qui datent quand même de plusieurs années. Quand on a la chance de pouvoir y pénétrer, souvent, on apprend un peu on apprend un peu de choses par rapport à une histoire les plus jeunes, on connaît pas. Par exemple, à Montréal, tout ce qui a été les plaques tournantes de la construction du chemin de fer, des grosses structures qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre immédiatement leur utilité, mais après ça, quand on fait la recherche puis qu'on découvre justement qu'on y fabriquait des locomotives, qu'on y fabriquait qu'on y entreposait du grain ou des trucs comme ça, mais ça rend la chose encore plus intéressante.
Ben oui, alors c'est vraiment fascinant de l'entendre. Ouais. Quand il parle comme ça de lieux industriels, d'explorer la ville, d'être un peu à l'affût de ces bâtiments mystérieux ça donne envie de le faire, mais il faut se rappeler quand même que c'est un hobby illégal, que ça comprend des risques évidemment aussi.
Ouais.
Mais juste pour savoir un peu, ici à Montréal, il y a 3 lieux qui sont, paraît-il, les plus populaires auprès des explorateurs urbains, donc les urbex. Alors, il y a l'ancienne brasserie Dow, qui fabriquait évidemment de la bière, l'usine de Canada-Maltage, dans le quartier Saint-Henri, et le fameux silo numéro 5. Alors, paraît-il que c'est des grands lieux d'exploration urbaine, ces trois lieux-là.
On me dit que les anciens locaux de CIBL aussi, c'est...
Sont-ils abandonnés? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, hein? Je suis pas retournée.
Oui, non plus, c'est un peu loin. C'est loin de chez, de chez nous maintenant. Alors, si vous voulez en connaître plus sur Jarol Dumouchel, allez à urbexplayground.com ou sur Facebook aussi. Okay. Il publie ses photos. C'est fascinant de voir des lieux abandonnés dans la grande région de Montréal.
Tout est là, Alexis.
Mais il se fait jamais, embêté?
Ben, écoute, la façon dont il décrivait ses aventures, à mon avis, non, mais je... Écoute, c'est vrai.
Il n'en a pas parlé.
Non.
Non, bon. Mais en même temps, peut-être qu'il ne veut pas s'en vanter. Ouais, c'est peut-être pas son sujet de conversation préféré. Mais tu l'as dit, c'est à pratiquer avec parcimonie et attention.
Oui.
Pour faire attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était très, très intéressant.
Pour animer vos week-ends à Montréal, CIBL 101.5.
La saison 2015-2016 marquera le 35e anniversaire de l'Orchestre métropolitain et le 30e du Chœur métropolitain. Une saison des plus festives. Laissez-vous transporter par maestro Yannick Nézet-Séguin et savourez la musique des Mahler, Bruckner, Dvorak, Gorecki et bien d'autres. Une chance inouïe d'entendre et de voir des solistes comme Dorothée Arushman, Marianne Fizet, Julie Bouliane et Yann Lisiecki. La musique est une fête. Abonnez-vous à partir de seulement $132. Visitez orchestremétropolitain.com.
La Maison du Jazz de Laval est fière de présenter Hommage aux grands Québécois du Jazz. En collaboration avec l'OSK, la Vodka Quartz et la Bière Boréale, ce mercredi 19h, la Maison du Jazz accueille Jacques Masson. La série Les grands Québécois du Jazz, chaque mercredi à la Maison du Jazz de Laval, une présentation de Vacances Sunwing.
Aux Oranges Pressées, on parle bien sûr de politique, de sport et de culture, mais on parle aussi de bouffe et de vin, de sexologie, d'immobilier, d'histoire, de découvertes.
Lundi, soyez à l'écoute de notre édition musicale des Oranges Pressées pour célébrer la Journée nationale des Patriotes. Vous serez accompagné de Maurice Bolduc à l'animation et l'équipe régulière sera de retour mardi.
Les Oranges Pressées, en semaine dès 6h à CIBL 101.5 Montréal.
Le Continuum, une émission musicale. Les chansons se succèdent selon ce qu'inspire la chanson précédente, un jeu infini. À chaque semaine, une nouvelle thématique, une sélection éclectique. Ici Tommy Pinard, je serai accompagné de mes collaborateurs passionnés. Le Continuum, les vendredis 19h à CIBL 101.5 Montréal.
Quelle est votre émission préférée à CIBL? Votez au CIBL10cast.com/voter. Vous avez jusqu'au 1er juin pour le faire. L'émission gagnante sera dévoilée lors du Gala des artisans de CIBL. Allez-y!
Ah, quel homme! Quel homme que ce Christophe Colomb! C'est l'avenue qui porte son nom, qui est sur notre feuille de route ce soir. C'est de lui dont il est question, à vrai dire, pas vraiment. Mais on va surtout parler dans les prochaines minutes de ce qui se trouve sur l'avenue. Après avoir fait dans l'exploration, on s'est bien amusé. On va être un peu plus terre à terre au cours des prochains instants. D'abord, dans une quinzaine de minutes, Alexandre Gascon va venir nous parler du centre Claude Robillard. Mais juste avant, un autre lieu qui a pignon sur l'avenue Christophe Colomb et où on peut faire du sport, c'est le Patro Le Prévost. Et là, moi, sinon, là, Olivier Pellerin, le Patro Le Prévost, là, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, tu veux savoir, premièrement, le Patro, qu'est-ce que c'est, un patro?
En
fait, ça vient de patronage.
Arrête donc!
Ouais. En fait, si je te donne une définition, on va sortir le petit Robert.
Sortons-le.
Le voici. Définition. Œuvre, société de bienfaisance créée pour assurer la formation morale à des enfants et adolescents. Ça va plus large que ça en Europe, les patronages, c'est début...
Ça n'a pas rapport avec...
Fin 18e, début 19e siècle. en Europe, il y a des crises, il y a des pauvres, il y a des gens démunis dans la rue, il y a des gens qui décident de s'occuper d'eux et ils créent des patronages. Donc, c'est des lieux communautaires où on aidait, on nourrissait parfois. En fait, on sortait des gens de la rue, on essayait, on leur donnait un coup de pouce pour les sortir de la rue. Ça s'appelait donc des patronages. Et c'est de là d'où vient donc le mot patron.
Okay.
Après ça, le prévôt.
Ouais, parce que là, moi, c'est ça, il y a trop de...
Le prévôt.
La structure de ce nom-là me
en fait, c'est assez simple. On parle ici de Jean-Léon Leprévôt.
Ah, c'est un gars.
Oui, exactement. Un homme religieux français qui a vécu dans les 19e siècle, né début du 19e siècle, mais a créé, en fait, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, qui, en France, effectivement, déjà à l'époque, ont été créés pour, justement, donner ce coup de pouce aux pauvres. Et nous, au Québec, lorsqu'on a créé les patrons, c'était des gens de la Saint-Vincent-de-Paul qui les ont créés.
Okay.
Et le premier qui a été créé, et le seul qui est à Montréal, d'ailleurs, c'est le patron Leprévôt. Et c'est de là dont vient Leprévôt. C'est Jean-Léon Leprévôt.
Bon, mais c'est pas si compliqué que ça.
Voilà.
Finalement.
Qu'est-ce qu'on y fait au patron? Alexandre, tu connais bien le patron. Toi-même, tu le fréquentes.
Je suis membre.
On en parlait avec le réalisateur Mathieu Damour
c'est
avant
la première
l'émission.
Fois que j'entends parler de ce gars-là.
Ouais. Et on a associé le patron au sport. On pense que c'est seulement du sport, mais le patron, c'est bien d'autres choses. Faisons la petite histoire. Ça a été fondé en 1909. Ça a été créé, en fait, justement parce qu'il y a des gens au Québec qui lisaient le bulletin des religieux de Saint-Vincent-de-Paul et qui parlaient de ces fameux patrons qui existaient déjà en Europe. Okay. Et on s'est dit, pourquoi pas importer ça ici? Parce que et ça a vu le jour à Québec. Avant, et là, je ne parle pas de la fondation en 1909. Là, celui de Montréal, c'est 1909, mais ça a été créé avant à Québec. On a créé ça parce que le Québec, la ville de Québec vivait à ce moment-là, donc fin du 19e siècle, vivait des problèmes économiques. Il y avait énormément de gens qui étaient dans, dans la rue. Oui,
mais j'allais dire, je pense qu'à Québec, ça s'appelle le patron Rocamadour.
Oui, et ben c'est un des patrons qui existent aujourd'hui, effectivement.
Je me suis dit que ça te plairait, Alexandre.
Quoi? Il y a un patron Rocamadour, puis j'étais pas au courant.
Oui, effectivement.
Et c'est pas le sujet d'une chronique ce soir? Non, non.
Ben, on pourrait en parler, si tu veux. Non, le premier patron qui a été créé, c'est le patron Saint-Vincent-de-Paul, justement, de Québec, qui a été créé là-bas parce qu'il y avait énormément de gens de qui on devait s'occuper. Effectivement, on l'a créé là. Par la suite, donc, fondation en 1909 à Montréal du patron, qui est le seul à Montréal. Alors qu'il y en a plusieurs dans la région. Tu parlais du patro Rocamadour. Il y a aussi patro Laval. Il y en a 7 aujourd'hui au Québec. Patro Laval, un peu moins créatif. Patro Laval, patro Jonquière. Patro Ottawa.
Ah, t'as plus celui-là, il est où?
Patro Ottawa. Patro Charlebourg et patro de Lévis. Le septième étant le patro.
J'ai entendu un ronflement.
C'est moi!
Et donc, fondé en 1909, c'était pas situé là où on le trouve aujourd'hui. Je le disais en début de chronique, c'est au 7355 avenue Christophe-Colomb, c'est au coin de Everett. Au départ, il a vu le jour au sous-sol de l'Académie Saint-Georges. C'était une école qui avait été créée pour justement sortir les jeunes de la rue et des dangers de la rue. C'était des religieux qui avaient mis sur pied cette école-là. Et donc, ça a vu le jour dans le Mainland, sur Saint-Dominique, au tout près de la rue Rosemont. Donc, on y a fait là. Au départ, c'était effectivement chrétien laïque. On essayait de... comment dire, d'attirer les gens vers le patro sans nécessairement leur dire que c'était religieux, quoique ça a été très longtemps et encore aujourd'hui, il y a encore des religieux dans l'organisation. Donc, on les attire là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? On les nourrit, on les éduque, on leur donne des cours de toutes sortes. Il y a à certains endroits, dans certains pravos, dans certains patros, c'est un mot que j'ai la difficulté à dire, dans plusieurs patros, il y avait des salles où on confectionnait, où on réparait, on faisait des travaux de tissu. Donc, on rapiéçait des vieux vêtements. Parfois, on faisait du tricot. Donc, on fournissait à ces jeunes-là des vêtements pour pouvoir faire face aux intempéries du Québec. Il y a eu plusieurs autres choses. Je le disais, il y a eu des cours. Il y a encore de la pastorale, même encore aujourd'hui. C'est les vieux relents de ces religieux qui ont créé ces patrons-là. Il y a encore des cours de pastorale qui se donnent, entre autres, au patron Leprévôt. Pour les jeunes et les adolescents qui souhaitent, comment dire, se dégourdir du côté spirituel.
C'est pas pour ça que t'es membre.
J'en savais rien, je savais pas.
Ouais. Donc, installé sur Saint-Dominique, et malheureusement, jusqu'en 1977, le 18 janvier, catastrophe, qu'est-ce qui se passe?
Je sens qu'il y a un dégât.
Il y a un bris électrique. Le bâtiment passe au feu, malheureusement. Et donc, on est sans patron, très, très, très fréquenté dans la ville de Montréal. C'est pas seulement les gens du Mainland qui le fréquentent, c'est le tout Montréal, parce que, la pauvreté, ça n'a pas seulement un quartier. Souvent, c'est répandu à travers la ville. Donc, on décide un peu plus tard de créer ce fameux patron qu'on retrouve sur Christophe Colomb. Et on le modernise. Il y a le gouvernement du Québec, il y a la Ville de Montréal qui est là-dedans, entre autres avec des religieux. Il y a des mécènes aussi qui fournissent de l'argent pour ça. Et dans ce patro, donc, il est modernisé. Donc, on y installe des gymnases. Mm-hmm. Et pour tu y es allé, donc, il y a des gymnases, il y a des terrains de squash, il y a une piscine qui a d'ailleurs nouvellement été rénovée. Il y a aussi des terrains de jeu à l'extérieur adjacents. Il y a une bibliothèque à l'intérieur du bâtiment. Donc, vraiment, même pour ceux qui habitent Villeray, l'éco-quartier se trouve dans le patro Prévost, si vous ne le saviez pas. Donc, une multitude de choses intéressantes. Et il y a eu des programmes, j'en parlais, des programmes sociaux et communautaires intéressants. En 1980, le programme Madame prend congé, un programme qui, encore aujourd'hui, est archi populaire pour les jeunes familles. C'est simple, on va avec l'enfant et il y a une garderie qui est là et qui garde l'enfant. Et maman, pendant ce temps-là, ou papa, peut aller se reposer ou sinon aller suer un peu, aller jouer au badminton.
Mais ça s'appelle Madame prend congé.
Oui. Ouais, pas monsieur, parce que
borderline, c'est
Madame prend congé.
C'est
donc, maman va là, va porter le jeune garçon, la jeune petite fille.
Elle peut aller se faire les ongles.
Exactement.
Acheter des sacs à main.
Exactement. Hein?
Moi aussi, je peux être sexiste.
Plusieurs autres. Tu pourras y aller, on fera des pétitions. Si on peut pas y aller, les pères, je t'engage, Alexandre, on est là dans la rue.
Ça se joue à deux.
En 1983, on crée une toute première popote roulante qui voit le jour et énormément de bénévoles donc, qui travaillent pour nourrir ces fameux jeunes démunis dans la rue. Il y a eu des magasins partage, des services de traiteurs, etc. Donc, c'est un centre communautaire. Mm-hmm. C'est au-delà du sport, même si, bon, comme tu le fais et comme je le fais d'ailleurs, on va jouer au badminton à l'occasion. Ça va au-delà du sport, ça va dans le communautaire. On essaie de rassembler les gens, de sortir certaines mm-hmm. personnes de la rue ou à la limite de leur donner un coup de pouce, mais aussi de divertir les jeunes. Et je le disais un peu plus tôt avant le début de l'émission, Anne-Sophie. Longtemps au Québec, ça a été l'endroit où les jeunes faisaient du sport. Parce que on pense que l'éducation physique, ça date de toujours. On a toujours eu ça à l'école primaire, secondaire.
C'est pas le cas.
Mauvaise réponse. L'éducation physique, on a dû attendre 1950 avant que, sous la pression populaire, les écoles commencent à accorder plus de temps pour l'éducation physique. Longtemps, ça a été les écoles privées, même dans du côté anglophone de Montréal et du Québec. C'était surtout là où on faisait du sport. Donc, les écoles privées avaient leurs installations parce que, bon, l'argent y était aussi. C'était des familles plus fortunées. Il y avait des frais qui y allaient avec. Donc, ont eu longtemps des installations, alors que pour les écoles publiques, les jeunes faisaient... longtemps, ils ont fait du sport ou, disons, ils ont bougé juste à côté de leur bureau, de leur pupitre. Après, ben, c'était dans les cafétérias. Et très longtemps, les gymnases n'existaient pratiquement pas dans les écoles publiques francophones au Québec. Et c'est dès 1950 où on crée ces fameux cours d'éducation physique. Le Collège Stanislas, en 1966 à Outremont, c'est parmi les premiers collèges qui l'a offert. Il y a des jeunes qui assistent pour la première fois à des cours d'éducation physique. 1966, on n'est pas si loin quand même.
Est-ce qu'ils jouent au ballon chasseur?
C'est une question qu'il faudrait leur poser.
Non, mais on jouait à ça aussi dans nos cours d'éducation physique.
Ouais, ben longtemps, ça a été de la gymnastique, ce qu'on a par la suite appelé de la culture physique. Je le dis avec un petit sourire. Passons. Donc, il y a eu de la gymnastique. Je suis désolé, je ne voulais pas m'éterniser sur le sujet. Donc, de la gymnastique dans les écoles. C'est ce qu'on faisait auparavant. Par la suite, on utilisait les cafétérias.
Mais comment on appelait ça, le sport, c'était à ce moment-là?
Le sport...
C'était de la culture.
Culture physique.
Oui, c'est ça.
Ouais. Okay. Voilà. Donc, c'est
comme ça que ça s'appelait.
C'est le rôle qu'a occupé longtemps les patrons. Ils ont donné une chance aux jeunes de bouger pour...
Pas trop le Prévost, là. C'est qui, lui? Non,
patronage, je cabotine. Jean-Léon, le Prévost.
Ça n'a pas rapport avec le conseil du patronage.
Non. Aucun lien. Aucun lien.
Ben, merci beaucoup, Olivier.
Ça me fait plaisir.
On ira jouer au badminton.
On ira échanger le volant.
Ouais, le moineau.
Le moineau.
On ira s'échanger le moineau.
Ouais.
Caractère, car je vis dans la société des loisirs. Il faut tout faire pour réussir. Travailler jusqu'à la démence. Pour s'offrir l'ultime expérience. Et si on allait en vacances, au beau milieu de l'océan, il y a une île en polymère, surmontée de châteaux de verre. C'est comme l'île fantastique, un vrai paradis chimérique. Du haut des immeubles géants, on peut toucher le firmament. Car je vis dans la société des loisirs. Et chaque année c'est encore pire. J'ai besoin, je crois, d'une pause. Mais j'ai trop besoin de ma dose. J'enlèverai tellement ce chapeau. Je m'effacerai du tableau. Je retournerai en arrière. Balancerai tout haut dans les airs. Mais je suis pris comme un agneau dans le nœud coulant de l'assaut. Je suis écrasé par l'assaut, vraiment écrasé par l'assaut. Car je vis dans l'assaut, la société des loisirs. Donnez-moi jusqu'à sa satiété de plaisir. Car je vis dans l'assaut, la société des loisirs.
La Société des loisirs du duo Alpha Rococo, et en duo, je parle de duo, on en a un duo en fin d'émission, un duo de bâtiments à vocation sportive.
Je pensais que tu parlais de toi et moi.
Parce qu'on est deux Alex, ben, on est un trio.
Forme de duo.
On est un trio avec Alexis. Ouais,
je suis là.
C'est pas tout à fait le bon prénom, mais...
Ah, on est les plus jolis.
C'est... Ça, c'est toi qui le dis.
C'est une amélioration.
On va s'en tenir à Alex, on est un joyeux trio.
Bon, pas de chicane. Je disais donc duo de bâtiments parce qu'on vient de parler de Patrouille Prévost et on sait maintenant pourquoi ça s'appelle comme ça grâce à Olivier Pellerin. Merci Olivier. Et là, tu nous amènes, Alex, au centre Claude Robillard, le complexe sportif Claude Robillard.
Voilà.
Jalon de l'histoire sportive de Montréal.
Oui, c'est de l'autre bord de la 40, donc pour plusieurs, c'est un terrain inexploré, là, on s'entend. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la 40?
J'essayais d'expliquer à Alexis tout à l'heure où c'était, puis ouais, c'était, j'avais
les limbes, ouais, bon, voilà, dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Mais effectivement, c'est vraiment une infrastructure sportive à Montréal super importante, et on n'a pas, ça nous vient pas nécessairement en tête quand on pense à l'héritage des Jeux olympiques. Hein.
Absolument
on,
pas,
on pense au stade, évidemment, on pense au parc olympique, à l'esplanade, bon, à tout ce qui est venu avec, le bassin d'Aveyron.
Les habitations aussi.
Tout à fait. L'habitation.
Ça a un nom.
Exactement.
Mais je l'ignore.
Mais c'est ça, ça ne nous vient pas. Mais j'en ai parlé il y a deux semaines, malheureusement.
Je t'écoute.
Mais, visiblement, mais le complexe sportif Claude Robillard est né et a été construit exactement
dans la foulée.
Dans cette foulée, voilà. Et c'est peut-être une des installations de cette époque, cette ère, là, qui tombe le moins en ruine, qui est encore aujourd'hui définitivement la plus utilisée ou une des plus utilisées. Et pour autant pour le sport élite que le sport amateur, ça, on va y revenir, cette cohabitation-là est quand même intéressante aussi. constitué de deux bâtiments. Tu parlais de duo au départ. Donc, il y a l'aréna Michel Normandin, qui m'a vu faire mes plus belles feintes à une certaine époque. Et évidemment, le centre lui-même, avec plein de terrains sportifs extérieurs également. Mais on retrouve aussi un centre de physiothérapie du sport du Québec, où Bruny Surin et autres, Annie Pelletier, ont été
massés
et puis rapiécés.
Rapiécés, c'est bien dit.
Voilà, les genoux en ruine, probablement, dans certains cas. Donc, plusieurs athlètes qui, encore une fois, se font soigner là, et c'est vraiment une référence médicale de ce point de vue-là aussi. Et donc, un peu d'histoire pour notre complexe.
Un peu d'histoire pour mon complexe d'infériorité.
Parce que pas trop le Prévost, ça t'intriguait.
Oui.
Mais qui est Claude Robillard?
Je sais c'est qui.
Ah oui? Ah, mais tu m'impressionnes. Mais c'est toujours important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, n'est-ce pas? Comme le disait ton ami Antonio Gramsci. Alors, ce complexe, tout d'abord, un écrivain italien hyper connu.
Oui, moi, je l'appelle Tony.
Alexis Opin-Dubonnet, ici de qui je parle. Donc, ce complexe...
Allons-y.
D'accord.
Je tiens un stand, je prends des vagues depuis tout à l'heure. Tu sais, c'est très agréable.
Tu as fait un compliment, il n'y a personne qui te voit, tu peux dire oui, tout simplement.
Oui.
OK, bon, parfait. Alors, un complexe qui a été érigé pour les Jeux de Montréal, on le disait bien, ça a été construit en 21 mois. Et ça, en soi, c'est impressionnant. À Montréal, quelque chose qui se construit en l'espace de 21 mois, ça peut nous surprendre. Le site des compétitions de quel sport pendant les Jeux? Essaie-toi, il y en avait deux. Ou essayez-vous, là, tout le monde en cœur.
Pendant les Jeux, badminton?
Non.
Racquetball?
Non plus. Il n'y a pas de racquetball aux Jeux olympiques.
Ping-pong?
OK, donc de handball.
Ah, pas de raquette.
Non.
Je voulais une raquette.
Pas de raquette. Okay. De handball et de water polo. Mais ça a également servi pour le site d'entraînement aux athlètes internationaux pour le hockey sur gazon. Moins populaire.
Ça, c'est, les gens adorent ça ici.
Oui. Pour l'athlétisme, évidemment, pour le soccer, la natation et le plongeon. Alors, un centre sportif immense quand même, qui regroupe une vingtaine de plateaux. On trouve une piste d'athlétisme intérieure, mm-hmm. où on fait des championnats en salle, des fois d'ailleurs, de 200 mètres, donc plus petite un peu qu'une piste régulière, mais quand même. 4 terrains de tennis intérieurs, un gymnase double, toute la palestre de gymnastique artistique, donc poutre, cheval sautoir.
La palestre.
Oui. Et alouette. Une aire de tir à l'arc, des salles d'escrime, lutte, karaté, judo, musculation, haltérophilie, il y a même une arène de boxe, des terrains de squash et racquetball. Bon, pour toi, Alexandre. Mais tout ça, c'est sûr que ce sont des sports un peu moins populaires peut-être au Canada, des sports d'été qui sont aux Jeux, qu'on pratique moins, mais on a vraiment toutes les infrastructures justement pour développer
ça, tu me l'apprends.
Oui, c'est plus rare un peu. Les installations aquatiques, ça, on le sait, ça a été rénové en 2009. Le club Camo s'y entraîne, et puis tous les plus grands noms du plongeon qui peuvent vous venir en tête, là, qu'on pense à Alexandre Despatie, par exemple. Ça te dit rien, hein?
Ah, c'est le gars qui anime l'émission de télé.
C'est ça, exactement. Donc, lui s'est entraîné au complexe sportif Claude Robillard, comme tous les autres plongeurs. On a des tremplins d'un mètre, trois mètres, la tour de 5, de 10. À l'extérieur aussi, c'est assez impressionnant. Une piste d'athlétisme de 400 mètres. Mm-hmm. L'Impact, il a joué ses matchs jusqu'en 2008.
Juste avant de déménager au Stade Saputo.
Exactement, et qui a continué à s'entraîner sur la surface
encore,
synthétique à l'occasion. Bon, voilà. Et donc, il y a deux surfaces de soccer, une naturelle, une synthétique. Il y a vraiment toute la palestre, encore une fois. Et
Alexandre, quand il apprend un nouveau mot.
Moi, j'aime bien ça.
On peut pas comme...
Alors, cette palestre, pour en revenir, comporte plusieurs athlètes. Bruny Surin y était. Et je suis content que mon collègue Olivier Pellerin soit assis à mes côtés pour en témoigner, parce qu'il y a vraiment cette... Le centre Claude Robillard, maintenant, c'est l'importance de la cohabitation entre le sport d'élite et le sport récréatif.
Okay.
Disons, pas amateur, mais récréatif.
Okay.
Et c'est pas toujours évident. Là, je sens que t'as peur un peu.
Il y a une petite rougeur.
Mais non, ça n'a rien à voir avec tes talents d'athlète. C'est pas ça. C'est que c'est assez difficile de cohabiter. Et une amie commune a été témoin d'une anecdote quand même un peu révélatrice.
Ouais.
Un entraîneur d'athlétisme qui était présent pour entraîner, bon, ses poulains, des gens de niveau national, voire international, et qui doivent cohabiter avec monsieur, madame, tout le monde, dont le bureau est fermé à 5 heures et vient, bon, faire son petit tour d'athlétisme en joguant pépère.
Ah ouais?
C'est sûr que c'est pas évident pour plusieurs des entraîneurs, justement, se plaignent de cette situation-là, parce que quand on essaie de développer un Bruny Surin qui arrive à 40 km/h sur une piste d'athlétisme, ça peut être dangereux.
Et que madame Tremblay, c'est chaud.
Ouais, madame Tremblay fait ses étirements pliés en deux. Ish! La conclusion pourrait être assez dramatique.
Faut qu'on vient d'être condescendant avec madame Tremblay.
Ouais, et voilà. Et puis, bon. Cet entraîneur en question avait un peu pété sa coche en bon français après des hurluberlus.
Okay.
C'était peut-être un peu trop, la réaction, sauf qu'en même temps, ça témoigne d'une situation qui est très difficile au Québec quand on parle de développement de sport amateur.
Ouais.
Sauf que c'est un peu le bel esprit de ce complexe sportif.
Voilà, l'important, c'est de participer.
Exactement. Il y en a un peu pour tout le monde. Mais qui était Claude Robillard?
Oui, tu l'as pas dit.
Toi, tu le sais.
Oui, je le sais.
Un ingénieur et le premier directeur du service des parcs de la ville de Montréal. On lui doit beaucoup de parcs, donc l'aménagement, évidemment. Là. En Grignon, Parc Jarry, Parc du Mont-Royal, le Parc La Fontaine, celui de l'île Sainte-Hélène aussi, donc vraiment tous les plus gros à Montréal. Et il a même été à l'origine de La Roulotte, un théâtre ambulant pour les enfants qui a été dirigé par Paul Buissonneau, qui est décédé récemment.
Qui n'était pas d'ailleurs installé dans le Parc La Fontaine.
Si exactement, et à partir de 1953, donc quand même assez polyvalent le monsieur. Et Michel Normandin appartient à cette grande catégorie de descripteurs sportifs à la radio.
Et on a eu la visite inopinée de René Poitier tout à l'heure, comme quoi...
En début d'émission, comme quoi tout est dans tout. Ouais. Voilà. Et je m'en allais ailleurs.
Mais René, c'est un peu l'héritier de Michel.
Tout à fait. Michel Normandin, après on peut penser au René Le Cavalier, Richard Garneau, Maléjac, Lionel Duval, Kenville, etc. Et c'était cette voix des premiers matchs radiophoniques à la radio de Radio-Canada. Donc, et peut-être vous en rappelez-vous, RDS était revenu avec ça dans les dernières séries éliminatoires. Là. Ça commençait par « Bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley ».
C'est pas mal.
C'était Michel... C'est pas pire, hein?
C'est pas mal, ton
émission. Pratiquais une grosse demi-heure devant mon miroir tantôt. Mais c'était justement l'héritage de Michel Gascon. Normandin. On y reviendra. Et si vous voulez, on peut écouter, c'est en 1950, un extrait de Michel Normandin qui parle avec un athlète bien connu.
Bonsoir, amateurs de hockey. Comme d'habitude, je vous reviens ce soir avec une autre entrevue Beehive. Mais celle-ci, à mon sens, possède un cachet tout spécial. C'est que mon invité est un personnage que vous désirez entendre depuis longtemps, sans doute. Il est venu à notre micro plusieurs fois dans le passé. Mais c'est la première fois cette année qu'il nous fait l'honneur de sa visite à nos studios. Je ne taxerai pas davantage votre curiosité, bien légitime d'ailleurs, et vous présenterez celui qui, vraiment, n'a pas besoin de présentation chez les amateurs de notre jeu national. Voici Maurice Richard.
Bonsoir. Il me fait plaisir de m'adresser, par l'entremise de ce micro, à tous les amateurs de hockey aux écoutes, et particulièrement aux partisans du Canadien.
Et les partisans du Canadien, on les trouve dans tous les coins de la province, de Gaspé à Hull et de l'Abitibi aux limites des cantons de l'Est. C'est à l'adresse de ces personnes que je m'apprête à te poser toute une suite de questions.
Vas-y, Michel, je suis prêt à répondre.
Je suis prêt à répondre.
Ça sonne tellement vrai.
Hein? C'est spontané. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est spontané.
Ça sonne pas du tout.
C'est en 1950 à la radio CBF 690 AM. Donc, la façon de faire de la radio a quand même pas mal changé.
Ça a beaucoup changé. Hein? Normand Chouinard, l'acteur, le personnifiait dans le film Maurice Richard.
Voilà.
Maurice Richard était personnifié
par Roy Dupuis.
Très bon.
Ouais,
très
voilà.
Bon. On devrait faire un quiz cinéma plus souvent.
On va y penser.
Plus souvent. C'est ça? C'est ça qui est ça?
C'est pas mal ça. Donc, complexe sportif Claude Robillard.
J'ai un complexe, moi, sportif, tu savais?
Non.
Non, je suis très complexé.
À Alexandre Coupal ou
Non.
OK, ton complexe sportif multiple.
Oui, il est dans ma tête.
C'est vrai que t'es pas très talentueux.
Non. Contrairement à toi, mon cher.
Exact.
Alexandre Gascon, merci infiniment. Écoutez, un beau show de collaborateurs ce soir. Merci à vous tous et à toi, Anne-Sophie, Alexis Gacon, Olivier
Bonsoir.
Pellerin. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est parce que vous êtes tous des gars. Je ne vais pas dire tous et toutes. Oh, laissez faire. Christophe, je suis en train de manquer ma conclusion. Je voulais la faire. On n'a pas parlé du fait que Christophe, c'est un patois un peu plate. Mathieu Damour en régie, merci infiniment. Alors, je m'appelle Alexandre Coupal et Christophe, j'ai manqué ma conclusion, mais je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain.
Pour animer vos week-ends à Montréal, CIBL 101.5.
Je dis qu'il ne faut maintenant que 80 jours pour faire le tour du monde. C'est-à-dire de Londres à Suez, 7 jours. De Suez à Bombay, 13 jours. De Bombay à Calcutta, 3 jours. De Calcutta à Singapour, 10 jours. De Singapour à Yokohama, 9 jours. De Yokohama à San Francisco, 22 jours. De San Francisco à New York, 7 jours. Et finalement, de New York à Londres, 9 jours. Total, 80 jours exactement.
Embarquez-vous pour le tour du monde en 80 jours, en supplémentaire jusqu'au 30 mai au Théâtre du Nouveau Monde.
S'établir au Canada est un beau projet de vie.
Pour que tout se passe bien, assurez-vous de connaître les lois, vos droits et obligations. Demandez conseil et faites confiance à un avocat membre du Barreau du Québec. Il vous aidera à remplir les papiers nécessaires et vous conseillera. Votre dossier d'immigration sera alors plus solide et plus complet. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises et vous serez protégé.
Allez sur site internet lebarreau.qc.ca/immigration pour garder quelques images vidéo sous nous et puis vous joindre bon Jean Conseil.
Les avocats du Barreau du Québec sont vos alliés pour la vie.
Leurs performances sont légendaires. Counting Crows, avec tous les classiques et des nouveautés sur la tournée Somewhere Under Wonderland. Le vendredi 15 mai, en spectacle au Métropolis de Montréal, le nouvel album Somewhere Under Wonderland, disponible maintenant. Counting Crows, avec invités spéciaux Twin Forks. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du Métropolis ou via evenco.ca. Présenté par Greenland et Evenco.
Aujourd'hui, en plus du gros lot de 50 millions, l'Automax offre 25 max millions. C'est ce qu'on appelle un gros, gros vendredi.
La Maison du Jazz de Laval est fière de présenter Hommage aux grands Québécois du Jazz. En collaboration avec l'OSK, la Vodka Quartz et la Bière Boréale, ce mercredi 19h, la Maison du Jazz accueille Jacques Masson. La série Les grands Québécois du Jazz, chaque mercredi à la Maison du Jazz de Laval, une présentation de Vacances Sunwing.